Quel début d'émission et on voit que on risque d'avoir une traînée de poudre avec l'histoire de la violence à l'école, mais les conséquences insoupçonnées. Alors ce midi, ce qu'on a fait, c'est que, évidemment, je vous ai parlé de l'histoire de TVA hier, cette chanson rap qui est dénigrante, insultante, blessante, distribuée aux élèves d'une école primaire. Et on voit les effets que ça peut avoir. On a vu cette mère de famille qui veut garder l'anonymat, qui a vécu l'enfer, qui a été obligée de prendre des mesures herculiennes pour tenter d'extirper sa fille des crocs de l'intimidation. Et hier, j'ai débuté l'émission avec, je pense, une entrevue très touchante avec le père de Simon Dufour, cet adolescent de 15 ans qui, jeudi passé, s'est enlevé la vie en se lançant devant un train. Une méthode difficile, là. C'est forte, là. C'est violent. C'est pas prendre une boîte de pilules, là. C'est un train. En passant, c'est un petit peu l'apanage des gars. Hein. Quand il y a des tentatives, les gars sont un petit peu plus violents dans leur méthode que les filles. Ça, c'est un petit peu ce que j'avais découvert quand j'avais fait le tour du Québec au niveau de la stratégie d'action jeunesse du gouvernement du Québec. On avait une grosse problématique, et on en a encore une, de suicide chez les jeunes. Puis la question de la violence des gestes posés était très corollaire au sexe. Pour vous mettre dans le bain d'hier, je vais vous faire entendre deux passages du père de Simon qui, tu sais, dans un premier temps, pensait bien qu'il avait tourné le coin avec son fils qui se faisait ridiculiser, harceler. Imaginez, parce qu'il était roux, parce qu'il avait des lunettes, puis parce qu'il parlait en classe. Écoutez ce que ça donnait.
Simon, c'est un petit garçon qui était super enjoué, était super généreux. Il y avait des projets à n'en plus finir, il voulait toujours être impliqué, sauf que ce qui nous revenait, c'est qu'il se faisait écœurer parce qu'il était roux, il se faisait écœurer parce qu'il avait des lunettes épaisses, il se faisait écœurer parce qu'il voulait toujours trop parler. Puis c'était sans arrêt, là, comme dire, au primaire, c'était l'école au complet qui était contre lui. Il y avait un jeu qui s'appelait Simon la peste. Fait que si tu touchais à Simon, tu parlais à Simon, là, c'était tu pognais la peste, puis après ça, plus personne ne te parlait. Fait qu'il était mis de côté de cette façon-là. Puis Simon, même rendu au secondaire, il nous en parlait, il était impliqué pour les affaires, il aidait les autres pour qu'ils se faisaient intimider. Fait que je comprends même pas pourquoi les gens peuvent penser que c'est une mauvaise personne ou qu'il aidait tout le monde, il était toujours prêt à vouloir donner un rendu service au suivant puis d'être là pour les autres. Puis ça a l'air qu'à l'école, quand c'était le temps de le monde soit là pour lui, mais il n'y a pas personne qui était là pour lui.
Bien, Seigneur. Et là, je vais vous faire entendre un passage qui m'a bouleversé. Il nous raconte le matin du geste, jeudi passé. Imaginez ce matin, là, vous êtes nombreux à m'écouter. Vous allez donner un bec à vos enfants, ils vont aller à l'école, puis tantôt, ils vont vous compter sa journée, leur journée. Les hauts, les bas. Ah, c'était le fun en éducation physique. Ouais, il y a une bonne note, il n'y a pas eu une bonne. Ça, là, c'est des beaux problèmes. Quand le soir, là, au lieu de parler à votre enfant là, de sa journée, c'est plutôt les policiers qui vous disent il y a eu un accident sur la voie ferrée. Il y a un petit gars qui s'est suicidé. Puis c'était Simon. Puis le matin, là, puis il avait donné un bec.
Les derniers mois, c'est ça qui fait le plus mal. C'est que depuis septembre, tout allait très, très bien. Je veux dire, ses notes avaient augmenté au plus haut point. Il était enjoué, on faisait des projets, il était pour avoir 16 ans en février, il était pour avoir son permis de conduire, il était pour faire des voyages, aller faire un road trip avec sa mère. Tout, j'ai vu le matin même, avant de partir, moi, puis j'ai donné un bisou à Canin, il m'a dit « Papa, il dit ben, passe à mon tournoi de hockey, on sort en fin de semaine, puis je suis parti, puis après ça, ça date de ce que je comprends de l'enquête policière, c'est aussitôt que je suis parti, comme lui est parti, puis c'est là qu'il décide de mettre fin à ses jours. »
Je veux en parler avec Michel Pinard, qui va être avec nous aujourd'hui pour deux segments. C'est un premier segment. Je pense qu'on peut avoir ses lumières. Salut, Michel.
Bonjour, Rock.
Ah, ça n'a pas de bon sens. Trois dans cette émission aussi. Là. Trois témoignages. Là. Comment l'intimidation à l'école peut être néfaste pour l'étudiant, mais avec des conséquences absolument tragiques.
Et j'ai l'impression que c'est pas terminé d'entendre des histoires. C'est pas les premières qu'on entend. Quand on voit un ado de 15 ans qui... qui se suicident de cette façon-là, évidemment, ça frappe l'imaginaire. C'est très violent.
Et d'autres enfants qui tentent de se suicider.
Il y en a aussi qui tentent de se suicider. Mais quand il y en a un qui réussit le passage à l'acte, ça saisit. Alors, l'opinion publique est mobilisée, évidemment. Et ça a un effet de choc. Et ce que je souhaite, Rock, c'est que très souvent, on a un choc. On en parle dans les médias. Et après ça, ça s'estompe. Que doit-on faire pour arriver à une conscientisation qui va durer et amener une modification au niveau des politiques, au niveau scolaire, au niveau des parents, arriver maintenant avec une approche par rapport à l'intimidation pour vraiment enrayer ou mieux gérer ce qui se passe au niveau humain dans les établissements scolaires et les écoles. C'est pas un nouveau phénomène, il est quand même là. On dirait que plus le temps passe, on dirait que la violence exercée, et si on ajoute avec ça les médias sociaux, ça devient très, très lourd, très difficile. Et là, ben, on arrive avec des résultats comme Simon Dufour. Tu sais.
Bon, Michel, il y a tellement d'angles qu'on pourrait aborder.
C'est vrai.
Si tu veux, on va essayer de prendre ça par morceaux.
Oui.
Je vais commencer par tenter de comprendre la définition d'intimidation à l'école. Explique-moi, Michel, où est-ce que la taquinerie cesse puis que l'intimidation commence?
La taquinerie, on taquine ceux qu'on aime. Ça nous fait sourire, ça nous fait rire. C'est pas néfaste, mais au contraire, ça peut même renforcer un lien d'amitié qu'on a, même au niveau des enfants. Quand ça devient du harcèlement ou quand ça devient, mettons, dur ou violent, là, c'est quand ça crée un malaise et quand ça attaque l'individu de façon personnelle. Ça attaque l'estime de soi, la confiance en soi, et ça procure souvent un sentiment de rejet chez l'étudiant.
C'est souvent donc, pour comprendre si vraiment on vit ou on est dans une situation d'intimidation,
oui.
C'est toujours par rapport au récepteur. C'est la personne qui reçoit ce commentaire-là, qui dans le fond qui est l'ultime juge. Moi, là, rire de ma grandeur, Michel, là, ça me fait rien.
Absolument.
Il n'y a rien que tu vas me dire sur ma grandeur que je trouve de l'intimidation. Sur d'autres affaires, peut-être que ma mèche est plus courte.
On a tous nos ondes fragiles, nos ondes d'ombre.
C'est ça. C'est beaucoup par rapport au récepteur. Celui qui reçoit le commentaire, oui. Dans le fond, c'est lui le juge. OK.
Exact.
OK, parfait. Explique-nous les conséquences là, quand c'est la goutte chinoise, là, tu sais, puis t'es grosse, t'es pas belle, tu putes. T'es des enfants de 6, 7, 10 ans, 14 ans. C'est quoi l'effet sur eux autres? Explique-moi ça.
C'est destructeur au niveau de l'estime, de l'image de soi, confiance en soi. Et très souvent, Rock, puis je l'ai vu au bureau, d'autres de mes collègues aussi, il y a un effet qui perdure dans le temps. Alors, l'intimidation, souvent, ne vient pas seulement d'un mois ou deux. Comme dans le cas de Simon, ça faisait des années. J'ai vu d'autres enfants, d'autres ados qui portaient ça aussi depuis des années. Alors, au départ, on banalise, on fait passer ça sous le signe de l'humour, mais on banalise. Mais ils le vivaient au quotidien. Et ça amène souvent l'enfant à se replier sur lui-même, à avoir une double personnalité un peu. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est lourd et pénible, revient à la maison et tente de ne pas alerter ses parents ou sa famille en présentant un autre visage. C'est pour ça que M. Dufour ne comprenait pas, parce qu'il disait lui-même que tout allait bien. Alors pourtant, son fils était en détresse. Il y a une souffrance intérieure qui est présente quand tu es victime d'intimidation.
Je veux maintenant que tu t'adresses, pour le premier bloc qu'on va faire,
oui.
Aux parents. Fait qu'il y a deux genres de parents. Il y a le parent de la victime, puis il y a le parent de l'intimidateur. J'aimerais ça que tu commences par parler aux parents de la victime.
OK. Alors, je veux dire d'abord au niveau des parents. Il y a des parents qui sont proactifs, qui sont sensibles et très présents et très sensibles à ce que leur enfant va vivre à l'école. Et alors, ils vont aller au-devant des coups, ils vont poser des questions, ils vont faire ventiler l'enfant, ils vont parler avec les professeurs. Je vois de ce genre de parents-là. Et il y a des parents qui sont plus passifs ou plus occupés et ils ont moins de disponibilité à entendre et à être sensibles aux signaux d'un enfant qui est en détresse. Alors, ce qu'il faut faire, je pense, c'est devenir, avec ce qui se passe présentement dans les médias, là, Rock, c'est d'arriver à un point où tu es capable de accorder de l'importance à ton enfant le soir et de valider, de poser des questions. Quand tu vois son attitude changer, son comportement être plus taciturne, plus tranquille le soir, s'isoler dans la chambre, c'est d'aller chercher des questions, de poser aller chercher des questions, le faire parler, le faire ventiler. Et ça, c'est important de lui laisser, sans le condamner, mais de la place pour pouvoir s'ouvrir. T'sais. C'est correct de poser des questions précises aussi par rapport à l'intimidation.
Et quand tu arrives à ça, puis tu vois qu'il y a de l'intimidation, tu dois agir. Puis là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais faut parler à l'école et faut parler à la commission scolaire.
Oui, tout à fait.
Quand l'école, maintenant, dit à un parent, j'aimerais ça te rencontrer, puis écoute, c'est ta fille qui a écrit une lettre de menace ou la chanson rap qui ridiculise quelqu'un, t'es la femme ou l'homme qui reçoit ce commentaire-là, tu fais quoi avec ton enfant?
Quand t'es la personne qui...
T'es le parent de l'intimidateur.
De l'agresseur, là. Là, c'est encore important de pouvoir valider l'information et d'encadrer l'enfant par rapport à ce qu'il a fait. De voir s'il y a une conscientisation du geste, de l'impact qu'il a. C'est très rare, par contre, que l'enfant va avouer, à prime abord, un méfait comme celui-là. Ils vont plutôt chercher à présenter à la maison un visage d'ange, là. Il ne va pas se dénoncer lui-même. Alors, il y a beaucoup de parents que j'ai vus avec des intimidateurs, là, qui ont fait le saut en apprenant que leur enfant, quand il était convoqué par l'école, parce qu'il n'y avait aucune idée.
C'est ça.
Alors...
Mais ça cache-tu une détresse chez eux également?
Tout à fait. Bien, on parlait d'estime et de confiance. L'agresseur ou l'intimidateur, c'est quelqu'un qui est très fragile en soi. Et ce comportement-là d'intimider, c'est une façon auprès des pères de rehausser un peu son statut social à l'école, puis son niveau d'estime en prenant un certain sentiment de pouvoir et de contrôle sur quelqu'un.
Le bully de l'école.
Le bully de l'école. Mais le bully de l'école, c'est souvent le plus fragile.
Puis comme parent, il faut que, premièrement, tolérance zéro.
Tolérance zéro. Dès que tu es au courant comme parent de ça, alors tu dois encadrer et intervenir auprès de l'enfant. Aller chercher de l'information auprès de l'école, des enseignants et de la direction, même chose. Et après, mettre en place une intervention pour aider cet enfant-là, qui est aussi, à la limite, en détresse. Parce que sa façon d'agir est un symptôme de quelque chose qui ne va pas, Rock.
Tu vois de ça, hein, clinique?
Absolument. Ben oui, bien sûr.
Les deux bords?
Les deux côtés.
Ah oui.
Les deux côtés.
Très intéressant. Merci beaucoup, Michel. Merci. On se revoit tantôt.
Oui.
On va se reparler tantôt. Je veux te parler de Daniel Brière.
Parfait.
Excellent. Merci. Michel Pinard, notre psychologue.